Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Les époux Fillon vont être jugés. Le couple est renvoyé en correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs présumés. Elle a fait de la lutte contre les nationalistes en général et contre l'extrême droite française en particulier son cheval de bataille pour les élections européennes. Dans sa jeunesse, pourtant, Nathalie Loiseau a figuré sur la liste d'un syndicat étudiant d'extrême droite. L'État islamique revendique les attentats de dimanche au Sri Lanka. Deux frères en particulier sont au cœur des investigations. Notre planète Terre, décidément pas au mieux. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées, à plus ou moins long terme, d'extinction. Il y a urgence, à l'approche de la pluie, une bâche de protection a commencé à être installée sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Côté météo, justement, les deux prochains jours seront bien agités, avec de la pluie localement orageuse et du vent qui se maintient dans le sud-est et qui remonte jusqu'en Alsace. Les températures, elles, vont légèrement baisser. Prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous aurez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir le président de Monoprix, Régis Schulz.
Europe 1.
C'est l'affaire qui a marqué la dernière campagne présidentielle, celle des emplois présumés fictifs du couple Fillon. Et on a donc appris aujourd'hui que l'ancien Premier ministre et son épouse sont renvoyés en correctionnel. François Fillon pour détournement de fonds et abus de biens sociaux, notamment Pénélope Fillon pour complicité. Alain Accot, dans leur conclusion, les magistrats sont accablants.
Oui, on peut même dire qu'ils sont cinglants, sur le fond comme sur la forme. Leur enquête a établi qu'en un peu plus de 20 ans, Pénélope Fillon avait perçu plus d'1 million d'euros de salaire en tant qu'assistante parlementaire de son mari, puis de son suppléant. Pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'un emploi fictif, ses avocats ont fourni ce que les juges décrivent comme une masse de documents qui ne démontrent rien, sauf à faire passer la plus anodine de ses activités pour un travail de collaborateur parlementaire. La thèse selon laquelle Pénélope Fillon aurait tenu à son domicile une sorte de permanence politique où elle recevait les administrés de son mari, invraisemblable, écrivent les juges. Quant à la présenter comme un agent de terrain qui aurait fait remonter des informations, pour eux, ce n'est pas très sérieux.
Les magistrats qui sont encore plus sévères, Alain, avec le travail qu'elle est censée avoir effectué auprès du successeur de son mari, Marc Joulot, qui est lui aussi renvoyé devant le tribunal.
Oui, les juges écrivent que Pénélope Fillon ne figurait même pas en copie des courriels organisant les visites du député dans la Sarthe. Son emploi n'était rien d'autre que la contrepartie à cette place de suppléant, un biais permettant au couple Fillon d'augmenter ses revenus. De même, le poste de conseiller littéraire dont Pénélope Fillon a bénéficié de la part du milliardaire Marc de la Charrière, propriétaire de la revue des Deux Mondes, ce poste est qualifié de pure complaisance pour satisfaire une demande de François Fillon à un moment où les ressources du couple allaient diminuer. Les magistrats ont aussi enquêté pendant plusieurs mois sur la société de conseil de François Fillon. S'ils ont finalement renoncé à le poursuivre pour trafic d'influence, ils ne se privent pas de préciser que les éléments recueillis sont assez éclairants sur la personnalité de François Fillon et son rapport à l'argent. Et ils en profitent pour dénoncer le mélange des genres auquel il s'est livré entre 2012 et 2017 à l'époque, écrivent les magistrats. Il était tout à la fois lobbyiste, intermédiaire, député, chef de parti et candidat à l'élection présidentielle.
Alain Accot, chef du service police-justice d'Europe 1. Les époux Fillon ont 10 jours pour faire appel et ce soir l'avocat de l'ancien Premier ministre s'interroge sur des fuites opportunes concernant ce dossier. Il affirme par ailleurs que François Fillon est impatient de pouvoir s'exprimer. Elle reconnaît une vraie connerie, une erreur de jeunesse. Nathalie Loiseau, la tête de liste La République En Marche pour les Européennes, dont on a appris qu'elle était inscrite sur une liste d'extrême droite à l'époque où elle était étudiante à Sciences Po Paris en 1984. Révélation de nos confrères de Mediapart, ça fait désordre pour celle qui cible régulièrement le Rassemblement National. Nathalie Loiseau qui a fait son mea culpa aujourd'hui sur Twitter.
Oui, il y a 35 ans, j'ai commis une erreur. J'ai accepté, par amitié, de figurer sur une liste où il y avait des gens de droite, des gaullistes, mais où il y avait aussi des gens d'extrême droite. Et ça, je ne le savais pas. J'aurais dû le vérifier. Je le regrette. C'est une erreur d'il y a 35 ans. J'entends aujourd'hui certains me prêter une proximité avec l'extrême droite. C'est révoltant. Je porte une liste dont l'objectif, c'est de combattre l'extrême droite. Je déteste tout ce que représente l'extrême droite dans notre pays et en Europe.
Le mea culpa de Nathalie Loiseau qui ne convainc pas, franchement. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, dénonce un double discours.
On vient donc apprendre que la tête de liste En Marche, Madame Loiseau, a en réalité été par le passé une militante d'extrême droite. La même personne qui, depuis le début de sa campagne, ne porte qu'un seul mot d'ordre. Ma seule raison d'être, c'est de battre l'extrême droite. Eh bien, je laisse chaque Français juge. de se demander si après de telles révélations, on peut encore faire confiance à une personne comme Madame Loiseau. Et si après un tel double discours, il peut y avoir encore le moindre crédit qui s'attache à ces paroles.
Laurent Wauquiez, le président des Républicains, au micro Europe 1 d'Aurélie Herbemont. Notez que le Rassemblement national a bouclé son emprunt patriotique en vue des élections européennes, qui lui a permis de lever 4 millions d'euros. Lancé il y a deux semaines, cet emprunt proposait un intérêt de 5% avec un minimum de 1 000 euros pour faire face au refus des banques de prêter de l'argent à la formation d'extrême droite. Il avait affiché un message appelant les policiers au suicide sur sa camionnette. Le gilet jaune arrêté hier à Caussade, dans le Tarn-et-Garonne, a été déféré aujourd'hui après une nuit en garde à vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de manifester jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour outrage. Ce sera le 12 juillet. L'intervention du RAID cet après-midi à Lourdes, un ancien militaire d'une cinquantaine d'années s'était retranché dans un appartement retenant plusieurs personnes, dont son ex-femme sur laquelle il a tiré. Elle a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Le forcené, lui, a été interpellé.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1 et le rectificatif des autorités du Sri Lanka. Aujourd'hui, aucun Français ne figure finalement parmi les victimes des attentats de dimanche. Le ministère des Affaires étrangères évoque une erreur de nationalité. Le dernier bilan provisoire encore est de 320 morts et 500 blessés. Des attentats qui ont donc été revendiqués aujourd'hui par l'organisation terroriste État islamique. Rémi Botsaron.
Oui, les auteurs des attaques sont des combattants de l'État islamique, c'est ce qu'affirme l'organisation terroriste via son agence de propagande. Alors, on rappelle tout de même que l'État islamique a déjà revendiqué certains attentats sans que son implication soit prouvée, mais on sait aussi qu'il peut inspirer des passages à l'acte. En tout cas, pour le moment, c'est toujours la piste locale qui est privilégiée par les autorités sri-lankaises. Pour elles, le responsable, c'est d'abord ce petit mouvement islamiste, le NTJ. Il aurait voulu riposter après les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui visaient des mosquées. Et on en sait un peu plus sur le scénario des attaques de ce dimanche. Selon les enquêteurs, les 6 attentats contre des églises et des hôtels de luxe étaient des attentats suicides et 2 suspects se sont ensuite fait exploser à Colombo pour éviter leur arrestation. Il s'agissait de 2 frères d'une vingtaine d'années qui jouaient justement un rôle central au sein de ce NTJ. Reste à savoir si le NTJ a bénéficié d'un soutien logistique international. Les autorités locales en sont persuadées et les enquêteurs cherchent à répondre à cette question alors que le Sri Lanka observe une journée de deuil national en hommage aux 320 victimes. Parmi elles, selon l'ONU, au moins 45 enfants et adolescents.
Les précisions de Rémi Botsaron. En Algérie, les têtes continuent à tomber. Ce soir, c'est le PDG du groupe pétrolier Sonatrach qui a été limogé par le chef de l'État par intérim. Moscou dénonce une politique américaine agressive et imprudente vis-à-vis de l'Iran après la décision de Washington de sanctionner les pays qui continuent à acheter du pétrole à Téhéran. Une telle ligne de conduite n'ajoutera aucun prestige international aux Américains. Washington ne cache même plus sa volonté de soumettre le monde entier à sa volonté. C'est ce que déclare le ministère russe des Affaires étrangères. En pleine affaire Carlos Ghosn, la visite du Premier ministre japonais à Paris aujourd'hui, Emmanuel Macron et Shinzo Abe ont tous les deux réaffirmé leur attachement à l'alliance Renault-Nissan. Europe 1, il est 22h08 et des bâches ont commencé à être installées aujourd'hui au-dessus de Notre-Dame de Paris pour protéger la cathédrale de la pluie. Il y a urgence au vu des conditions météo annoncées pour les prochains jours. Charlotte Hubert, la présidente de la compagnie des architectes en chef des monuments historiques, était ce soir l'invitée d'Europe 1.
C'est une opération assez délicate parce que vous savez que les voûtes de Notre-Dame de Paris ont été endommagées, donc c'est très fragile, on ne doit pas les toucher. On repose des poutres sur les 2 murs latéraux, un platelage assez léger et des bâches par-dessus. On est en vraie procédure d'urgence. C'est une solution qui est ultra provisoire. Vous savez qu'il y aura une grande couverture provisoire qui sera très visible, hein, à 2 pans, qui permettra de reconstruire la charpente et la toiture en dessous, qui va être mise en œuvre. Mais ça, c'est une opération beaucoup plus longue et on se doit de mettre à l'abri, je veux dire, paraît au plus pressé.
Effectivement, cette bâche, elle est provisoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de l'installation que l'on connaîtra par la suite, qui devrait normalement recouvrir complètement la cathédrale ?
Oui, voilà, ça va être un grand toit à 2 pentes, sûrement, qui prendra la même forme, mais qui sera plus haut que le toit réel de Notre-Dame, pour qu'on puisse restaurer le toit en dessous. C'est-à-dire qu'il servira à la fois à abriter la cathédrale et à abriter toutes les entreprises qui vont travailler en dessous pour refaire charpente et toit.
Charlotte Hubert, la présidente de la compagnie des architectes en chef des monuments historiques, qui était l'invitée ce soir du Grand Journal de Mathieu Béliard sur Europe 1.
22h, 22h30, Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Plus aucun enfant ne doit arriver le ventre vide à l'école. 6 millions d'euros débloqués pour offrir le petit déjeuner gratuitement à 100 000 élèves des territoires prioritaires. Bonne idée, dit la petite Shannon.
Maintenant, maman, elle a plus d'argent pour acheter des petits déjeuners. Tout le temps, on mange que du pain, sans rien dedans. Et moi, je préfère manger plutôt à l'école.
Shannon qui se félicite donc de ces petits déjeuners gratuits qui ont été déjà mis en place dans son école de Pont-Sainte-Maxence, c'est dans l'Oise. Le ministre de l'Éducation et la secrétaire d'État à la Santé se sont rendus sur place ce matin. Et pour le directeur de l'établissement, Jean-Louis Dudec, le bilan est d'ores et déjà très positif.
Nous, sur l'école, ça a eu que des points positifs au niveau de la concentration des élèves. On avait moins d'enfants qui étaient fatigués le matin et qui s'endormaient l'après-midi, donc qui étaient plus disposés à travailler en classe. On a des enfants qui ont commencé à être autonomes en classe. Le fait d'être autonome au petit déjeuner leur a permis de faire la même chose en classe, donc de ne plus être passif devant les exercices. Donc c'est vrai que c'est plus agréable de travailler en classe avec eux, parce qu'ils sont tous prêts à travailler, à participer. Donc ils ne sont pas ailleurs, ils sont là.
Jean-Louis Dudec avec Yasmina Katou. L'actualité ce soir, ce sont aussi ces chiffres tellement impressionnants qu'on a du mal à réaliser. Entre 500 000 et 1 million d'espèces seraient menacées d'extinction sur la planète dans les décennies qui viennent. C'est le constat alarmant d'un rapport d'experts internationaux qui sera discuté la semaine prochaine à Paris. Et c'est l'agence France Presse qui s'est procuré en avant-première ce rapport qui, théoriquement, devait rester confidentiel jusqu'à lundi, Ève Roger.
Jusqu'à 1 million d'espèces seraient menacées sur la planète, dit le rapport, espèces végétales et animales confondues. Il faut savoir qu'on estime environ à 8 millions le nombre total d'espèces sur Terre, dont les deux tiers sont des insectes. Alors quelles sont les causes de cette catastrophe annoncée? D'abord, c'est l'utilisation des terres par l'homme, l'agriculture, l'exploitation des forêts, des mines, et puis aussi l'exploitation directe des ressources, la pêche, la chasse. Viennent ensuite le changement climatique et enfin la pollution. Résultat, selon le rapport, ce sont les trois quarts des surfaces terrestres qui ont été gravement altérées, 40% de l'environnement marin et la moitié des cours d'eau. Alors, quelles conséquences pour l'homme? Les premiers touchés, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui sont dépendants de la nature pour vivre. Quelques exemples, plus de 2 milliards de personnes dépendent du bois pour l'énergie. 4 milliards utilisent une médecine naturelle.
Les précisions d'Ève Roger. Les autorités ukrainiennes annoncent avoir saisi à Kiev un tableau de l'impressionniste français Paul Signac qui avait été volé l'an dernier au musée des Beaux-Arts de Nancy. Une huile sur toile datant de 1915 et qui représente des bateaux à l'entrée du port de La Rochelle. Elle avait été découpée et le cadre laissé sur place. Ce tableau a été retrouvé à Kiev, donc au domicile d'un homme également soupçonné du meurtre d'un bijoutier. Dans quelques jours, les dernières pistes fermeront dans les stations de sport d'hiver. Et cette année, le bilan touristique est jugé globalement satisfaisant, même si le taux d'occupation des hébergements de montagne devrait afficher un très léger repli, recul plus sensible dans les Pyrénées. Et puis pour la première fois, une femme vient d'être désignée arbitre central d'un match de Ligue 1. On parle de foot, évidemment. Stéphanie Frappard arbitrera dimanche la rencontre entre Amiens et Strasbourg. Et c'est donc un petit événement dans le foot, Jean-François Pérez.
Stéphanie Frappard, c'est l'histoire d'une irrésistible ascension. À 35 ans, elle en a déjà passé plus de 20 à arbitrer. Au départ, elle est joueuse, plutôt douée, originaire du Val d'Oise, au nord de Paris. Mais les carrières dans le foot féminin ne sont pas encore ce qu'elles sont devenues. Et Stéphanie Frappard se tourne rapidement vers l'arbitrage. Petite voix, mais forte personnalité, elle franchit un à un les échelons, arbitre les hommes en amateur, subissant sans broncher les remarques désobligeantes et souriant quand on l'appelle « Monsieur l'arbitre ». En 2014, elle est déjà la première à officier lors d'un match professionnel en Ligue 2. Cinq ans plus tard, elle en est l'une des figures respectées, malgré son mètre 65. Car Stéphanie Frappard est non seulement une excellente arbitre, mais elle est aussi une athlète de haut niveau. Et c'est en respectant les mêmes critères que ses collègues masculins qu'elle a donc été promue en Ligue 1, ce qui était, elle ne s'en cache pas, l'un de ses objectifs suprêmes. Pour le reste, elle est déjà l'une des références mondiales de l'arbitrage dans le foot féminin, choisie pour représenter la France à la Coupe du Monde dans un mois et demi. C'est dans ce cadre, pour se préparer, qu'elle arbitrera Amiens-Strasbourg ce dimanche. Elle y découvrira notamment la VAR et ses polémiques à répétition. Bienvenue à vous, Madame l'arbitre.
Bienvenue en effet. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Mornin, avec une bonne nouvelle, si l'on peut dire. La pluie et le vent vont nettoyer la pollution sur le nord-ouest et également limiter la sécheresse dans le sud-est.
La pluie est Le vent, Isabelle, va nettoyer la pollution sur le nord-ouest et limiter la sécheresse dans le sud-est. Alors les premières averses orageuses accompagnées de grêle ont déjà sévi cet après-midi sur le littoral atlantique. Ça se poursuit encore dans la nuit. Demain matin, cet axe s'étendra du Nord-Bretagne et Normandie jusqu'au Massif central. Et puis l'après-midi, ce sera un ciel d'alternance sur une grande partie nord et ouest. Nuages, rares éclaircies, quelques averses parfois orageuses. Plus sec, c'est vrai, au sud de la Garonne. Alors sur le sud-est, les pluies soutenues vont remonter le long de la vallée du Rhône jusqu'au nord-est, avec là aussi des orages. Et partout en France, du vent entre 60 et 90 km/h et même 110 sur les crêtes des Pyrénées. Alors les pluies et le vent vont se renforcer, attention, jeudi, entre la vallée du Rhône, le Massif central, la Bourgogne, avec de bonnes chutes de neige du côté de la Haute-Loire. Peut-être une vigilance orange à venir compte tenu des pluies attendues, un cumul de 100 mm après cet épisode. Retour au calme en fin de semaine pour les régions de l'extrême sud. Et puis les températures, elles vont progressivement baisser pour atteindre finalement des valeurs de saison. Il fera encore chaud hein, demain après-midi, surtout dans le nord-est avec 23 à 26 degrés. 22 pour Lille, 21 à Paris et Ajaccio, 19 à Toulouse, 18 à Bordeaux, Montpellier et Marseille, 17 pour Bourges, 16 à Caen et Nantes, 15 degrés pour Brest.
La météo signée Elena Morna.